Bien, je vous remercie tous d'être là. Et dans la séance que nous allons commencer, nous entrons dans un compte à rebours pour une guerre. J'ai dit qu'on était dans un chapitre qui s'appelait « Chronique d'une guerre annoncée ». Et nous avons terminé la dernière fois, me semble-t-il, sur l'assassinat d'Anwar al-Sadat le 6 octobre 1981. Alors, les obsèques du président Sadat ont lieu le 10 octobre en présence de personnalités occidentales, dont les anciens présidents Nixon, Ford, Carter, plus Henry Kissinger, Alexander Haig, François Mitterrand, avec évidemment des précautions exceptionnelles de sécurité. Il n'y a pratiquement aucune personnalité arabe présente et le peuple égyptien est aussi totalement absent des obsèques de Sadat, alors qu'on se rappelle les millions de personnes qui s'étaient spontanément mobilisées pour les funérailles de Gamal Abdel Nasser 11 ans auparavant. Begin est venu présider la délégation israélienne, mais son image n'apparaîtra pas dans les reportages en direct de la télévision égyptienne. Dans le monde arabe, la presse a plutôt célébré l'assassinat et traité de héros les comploteurs, et les Palestiniens ont manifesté leur joie. Alors, la principale préoccupation, lors même des obsèques de la diplomatie américaine, est d'obtenir des parties prenantes l'engagement de respecter le calendrier prévu de l'application des accords. Dans ses entretiens avec Begin, Haig a une nouvelle fois rejeté le projet israélien d'invasion du Liban. Pour les Américains, la mort de Sadat est un coup très dur pour l'ensemble de leur position régionale et il faut tout faire pour consolider le régime d'Hosni Moubarak et donc il faut le soutenir dans la question du respect des engagements pris. Alors, celui qui a la vision la plus lucide, comme d'habitude, c'est le ministre français des Affaires étrangères, Claude Cheysson, qui a le malheur de dire ce qu'il pense tout haut, ce qui, pour un ministre des Affaires étrangères, n'est pas la chose à faire, puisqu'il explique que la mort de Sadat lève un obstacle au rapprochement interarabe indispensable pour la poursuite du processus de paix. Alors, ça a choqué l'opinion publique française à l'époque. De leur côté, les anciens présidents Carter et Ford considèrent comme inévitable l'ouverture d'un dialogue avec l'OLP, ce qui contraint Haig à réaffirmer que la politique de son pays n'a pas changé. Quant à Arafat, évidemment absent des obsèques du Caire, il marque qu'il apprécie le plan FAD et qu'il accepte le principe de la coexistence avec Israël. Et il ajoute que Sadat a été assassiné parce que les États-Unis l'ont forcé à faire trop de concessions. La Syrie ne condamne pas le plan FAD en soi, mais sa presse, libre et indépendante, bien évidemment, condamne le plan saoudien. Alors, du côté européen, les ministres des Affaires étrangères des 10 décident, je cite, « d'explorer plus à fond les propositions saoudiennes en vue d'un règlement global de la crise au Proche-Orient ». Mais la France de François Mitterrand lève un obstacle important en acceptant le principe d'une participation française et européenne à la future force multinationale dans le Sinaï, ce qui était essentiel pour concrétiser le retrait définitif des Israéliens de la péninsule. Mais la position européenne, malgré François Mitterrand, reste attachée à la déclaration de Venise, alors que François Mitterrand s'y était montré contraire. Alors, le 13 octobre, un référendum confirme l'élection de Hosni Moubarak à la présidence de la République avec seulement 98,46% des suffrages et pas le 99,99% qui est normal dans ces circonstances. La répression s'abat sur les milieux islamistes, hein, c'est-à-dire qu'on épure l'armée et l'administration. Et de ce fait, dès le 21 octobre, les pourparlers peuvent reprendre entre l'Égypte et Israël pour l'application du retrait. Aux États-Unis, je le rappelle, le grand dossier du moment est le monumental contrat d'armement demandé par l'Arabie saoudite, une valeur de 8 milliards de dollars. Et Reagan a été tellement furieux de l'opposition israélienne à ce contrat qu'il met tout son poids politique au Congrès pour obtenir le vote positif du Congrès américain. Et en particulier, l'Arabie saoudite a envoyé un jeune prince pour faire du lobbying aux États-Unis sur le contrat. C'est un fils du ministre de la Défense, c'est le prince Bandar Bal Sultan. Et c'est lui qui, du côté saoudien, veut faire le lobbying auprès du complexe militaro-industriel américain. Alors, vous connaissez la méthode pour avoir des contrats aux États-Unis, pour qu'on est dans le complexe militaro-industriel, si vous êtes fabricant d'armement, la meilleure méthode, c'est d'avoir une usine dans chacun des 50 États américains, ce qui assure, a priori, le vote positif des représentants de ces États. Finalement, le 28 octobre, le Sénat donne son approbation par 52 voix contre 48. C'est une victoire majeure pour Reagan, mais pour les amis d'Israël, ce n'est qu'un revers. Il est peu probable que la présidence américaine s'engage une nouvelle fois dans une telle épreuve de force avec les amis d'Israël. Donc la préoccupation israélienne va se déplacer vers le plan saoudien qui a été plutôt bien accueilli dans les pays occidentaux. Alors, sentant le sens du vent, comme d'habitude, le roi Hussein abandonne ses réticences et approuve le plan saoudien à son tour. Il le fait lors d'une visite à Washington le 2 novembre 1981. Alors, le contact personnel entre le roi Hussein et Ronald Reagan est bon, mais le roi est atterré de la méconnaissance des affaires du Moyen-Orient de la part du président américain, pendant qu'il lui expliquait que tant qu'il n'y aura pas de solution au problème palestinien, pour les Arabes, l'ennemi numéro un serait Israël et l'ennemi numéro deux, les États-Unis. Reagan paraît plus intéressé sur la question de la pêche en mer morte, où, au passage, il n'y a pas de poisson. Donc, on comprend la surprise du monarque jordanien. On a parfois dans les documents d'archives des passages totalement surréalistes de ce genre. Mais au lendemain du départ du monarque, Reagan fait une déclaration marquant sa préférence pour un Jérusalem unifié sous contrôle israélien, d'où clarification immédiate de la diplomatie américaine, selon laquelle la position des États-Unis n'a pas changé, mais le dommage est fait. L'Arabie saoudite fait campagne auprès des autres États arabes en faveur de son plan, sous le thème « Ceux qui rejettent le plan FAD se placent dans le même camp qu'Israël ». Il s'agit de préparer le sommet arabe qui doit se tenir à Fès à la fin novembre. Et pour apaiser les radicaux, on précise que la reconnaissance du droit d'Israël à exister n'aura lieu qu'après la constitution de l'État palestinien et la fin de l'État de belligérance. Autrement dit, c'est la conséquence logique des étapes précédentes, et il n'y a pas d'État palestinien sans l'OLP. Alors Begin commente dans le style suivant, je cite, « L'Arabie saoudite est un pays médiéval du désert, fort de ses pétrodollars, avance à un prétendu plan de paix. Nous disons avec vigueur que ce plan, malgré les commentaires favorables à Washington et en Europe, ne peut servir de base à un règlement de paix au Proche-Orient. Il faut appliquer les accords de Camp David. Ce n'est qu'un plan destiné à détruire Israël par étapes, dit-il. » Alors, les progressistes arabes sont tout à fait hostiles à ce plan et un problème sur la fiche. Excusez-moi. Une seconde. Je crois qu'on s'est trompé de fichier. Ou un problème sur l'ordinateur. Vous m'excusez. Parce que normalement, il devrait y avoir plus d'images. Oui. Vous pouvez regarder s'il y a un autre fichier.
Toujours dans le 12.
12, oui. Excusez-moi, hein. Je reprends pendant ce temps-là. Donc, voilà, alors c'est moi qui me suis trompé dans les fichiers. Mais c'est... les progressistes arabes sont hostiles au plan. L'opposition est menée par l'Algérie et la Libye, tandis que la Syrie multiplie les expressions publiques de réticence. Arafat, comme d'habitude, tergiverse. Mais accueille favorablement, finalement, avec des réserves, le plan saoudien. L'Iran organise des manifestations de protestation demandant l'exécution d'Arafat, un mercenaire américain. Le pré-sommet réunissant les ministres des Affaires étrangères montre l'intention des radicaux à s'opposer à l'adoption du plan, 22-23 novembre 1900... Non, c'est pas celui-là. Oui, il n'y en a pas un autre. Regardez dans 004, ouvrez celui-là. Descendre. Encore plus bas. Vous devez avoir un 12 en bas.
Celui-là.
Oui. Excusez-moi. Donc, le pré-sommet montre les réticences arabes et finalement, le sommet arabe ne dure qu'une demi-journée, le 25 novembre. Devant l'ampleur des divisions, le roi Hassan II préfère ajourner la reprise des débats. Et du coup, c'est un échec. C'est bon, ça. Merci. Non, bon, c'est le fichier qui est mauvais. Excusez-moi. Ce fichier de base n'est pas bon. Vous n'aurez pas de photo. Vous êtes puni. Le camouflet est sans précédent pour l'Arabie saoudite, mais si les radicaux arabes pavoisent, leur intention ou leurs moyens de mener la lutte armée restent avant tout du domaine de la gesticulation. Ils n'ont aucune solution politique ou militaire à proposer. Et toutes les ambiguïtés régionales se retrouvent dans la position américaine qui se félicite à la fois du rejet du plan saoudien et en même temps s'inquiète de l'affaiblissement de la position de l'Arabie saoudite. Alors, la déclaration de Venise et le plan FAD avaient ouvert la voie à d'autres projets que celui proposé à Camp David. Pour mieux les contrer, La diplomatie israélienne s'attache à la lettre du traité de Washington et refuse toute autre éventualité. Alors, on a pensé un moment du côté israélien conditionner le retrait du Sinaï au succès, enfin à l'arrivée d'un texte, disons, dans les discussions sur l'autonomie. Mais les Israéliens préfèrent finalement opérer l'évacuation plutôt que de se lancer dans une négociation au bord du gouffre sur l'autonomie avec les Égyptiens et avec les Américains. L'assassinat de Sadat a paru mettre en danger tout le processus de paix, mais Hosni Moubarak montre sa résolution de poursuivre la politique de son prédécesseur, bien qu'en Israël, l'opposition travailliste se montre hostile. Rabin, en tant que personnalité majeure de l'opposition, appelle à un réexamen du processus de paix et voire à une reconsidération du traité de Washington. Mais Begin balaye cette opposition et donc, aux sessions de négociations suivantes, le 11-12 novembre 1981, Begin obtient une déclaration tripartite égypto-israélo-américaine réaffirmant les cadres des accords de Camp David et du traité de Washington. Pour Begin, l'opposition en Israël porte surtout sur la question de l'autonomie. Pour lui, c'est une autonomie de personne et non pas de territoire, mais c'est déjà trouvé par une bonne partie de l'opinion publique israélienne comme trop libéral, risquant d'ouvrir une perspective d'autodétermination pour les Palestiniens. Et à l'époque, Peres, qui a la réputation d'être un faucon, accuse Begin d'avoir laissé ouvert la question de l'autodétermination. Et après la mi-novembre, Begin considère qu'il est préférable de ne pas avoir d'accord avec l'Égypte sur l'autonomie plutôt que de rouvrir le dossier. Et les États-Unis envoient des signaux contradictoires. Haig voit dans la question palestinienne l'obstacle principal à son grand projet de coalition moyen-orientale contre l'Union soviétique. Si l'Égypte signe l'accord sur l'autonomie, on pourra enfin se consacrer aux choses essentielles. Il envisage de conditionner l'évacuation du Sinaï à la conclusion préalable de l'accord, mais il faut que ses subordonnés se coalisent pour lui faire comprendre que cela risquerait de faire perdre le seul grand acquis américain dans la région, les accords de Camp David. Reagan porterait la responsabilité d'être le président américain qui aurait perdu le traité égypto-israélien gagné par Carter. Reste la question des colons du Sinaï. Après les premiers retraits de 1979, l'agitation du milieu des colons s'était apaisée à la suite de promesses de dédommagement conséquents. De surcroît, le gouvernement offrait de nouvelles perspectives de colonisation de la Cisjordanie. Aux élections de 1981, les colons extrémistes, la ligne radicale, n'avaient eu que peu de succès. Au début de septembre 1981, le mouvement lance une campagne sur le motif « Arrêtez le retrait » et la passivité du gouvernement laisse croire à un moment que cette campagne est approuvée. Mais en fait, la politique est de savoir si on évacue tout de suite les colons ou on attend le dernier moment, le mois d'avril. L'assassinat de Sadat apparaît aux intéressés comme un signe divin que le gouvernement ne peut pas ignorer. Alors, l'hésitation des gouvernements israéliens à agir favorise les volontés des colons de renforcer leur nombre dans la ville symbole de Yamit, dans le Sinaï, et le gouvernement laisse faire, voire même fournit les services sociaux aux nouveaux arrivants. Cette attitude s'explique par le désir de retarder les affrontements au dernier moment et de maintenir la question du retrait ouverte au moins comme moyen de pression sur l'Égypte. Pour Begin et Sharon, la Cisjordanie constitue l'essentiel et non pas le Sinaï. Ils ont tout fait pour multiplier les faits accomplis irréversibles. Ils viennent de désigner une administration civile confiée au professeur Menahem Milson, dont le but est de déraciner l'influence de l'OLP sur le terrain. Après les déclarations de bonnes intentions du début, la volonté est de mener une politique de la main de fer contre la direction dite terroriste de l'OLP en Judée-Samarie. Si les gens sont pro-LP, disent-ils, ce sont des terroristes antisémites qui veulent la destruction de l'État d'Israël. Les hostilités commencent en Cisjordanie dès le 2 novembre, date du début de l'administration civile, mais qui correspond évidemment à l'anniversaire de la déclaration Balfour. Les manifestations menées par les étudiants sont durement réprimées. Les universités sont fermées par les militaires israéliens. Arborer un drapeau palestinien devient un motif d'arrestation. La maison de quatre jeunes gens accusés d'avoir lancé des cocktails Molotov contre l'armée israélienne sont détruites. Les punitions collectives, comme couvre-feu et lourdes amendes, se multiplient. La presse arabe de Jérusalem est interdite dans les territoires. On procède aussi à de nouvelles confiscations de terres. Dans le même temps, Milson multiplie les encouragements aux ligues de villages, ces mouvements ruraux encouragés par Israël. Mais ces mouvements, ces ligues sont considérés par la population comme composés de collaborateurs. Et les paysans suivent d'autant moins les ligues de village qu'ils sont directement visés par les nouvelles confiscations de terres. Finalement, les Jordaniens comme les Palestiniens ont un adversaire commun, c'est-à-dire ces ligues de village. Dans la bande de Gaza, la tension monte aussi. La population proteste contre l'imposition de la TVA, alors qu'elle n'a aucun contrôle sur l'utilisation des impôts. Une grève générale de plusieurs jours est menée au mois de décembre, ce qui met fin à l'apathie qui avait suivi la très dure répression du début des années 1970. Si les États-Unis déplorent les événements des territoires, ils ne vont pas plus loin. Le 30 novembre, le mémorandum de coopération stratégique entre les deux pays est signé par Weinberger et Sharon. Son statut juridique lui permet d'éviter la ratification parlementaire. Ce mémorandum est justifié par la menace contre la paix et la sécurité de la région que constituerait l'Union soviétique ou des forces contrôlées par l'Union soviétique. Il ne vise pas un État ou un groupe d'États de la région, il se pose comme de nature défensive contre cette menace extérieure. Il prévoit une coopération militaire avec des manœuvres conjointes et périodiques, ainsi que le libre accès aux infrastructures militaires des deux parties. Sharon a fait miroiter à ses interlocuteurs américains le prépositionnement du matériel de guerre en Israël, ce qui permettrait d'intervenir en 48 heures en Arabie Saoudite en cas de menace dans le Golfe. Mais ce mémorandum est essentiellement de nature politique, c'est-à-dire apaiser les Israéliens après le contrat saoudien et avancer dans la voie du consensus stratégique qui est la grande idée d'Alexander Haig. En attente d'Israël, qu'il ne prenne pas d'initiative intempestive du genre bombardement de Beyrouth ou d'une centrale nucléaire arabe. Les demandes israéliennes essentielles, comme l'accès direct aux informations des satellites d'observation ou la fabrication conjointe de matériel militaire, ont été rejetés. Quant au prépositionnement du matériel, il est renvoyé à la décision d'un conseil de coordination militaire et à des groupes de travail qui doivent être établis. Parce que les stratèges militaires américains savent que cet accord de coopération stratégique est un non-sens. La vraie coopération militaire est celle menée entre la force d'action rapide américaine et l'armée égyptienne dans le désert égyptien. Ce sont les manœuvres Bystar qui ont commencé depuis la fin des années 70 et qui permettent la coordination entre une armée arabe et l'armée américaine dans les conditions naturelles du Moyen-Orient. Quant au prépositionnement, il est inclus implicitement dans les contrats d'armement saoudiens sous forme de conseiller militaire américain. Et surtout, les Saoudiens proportionnent leur infrastructure militaire en fonction d'une force armée considérablement supérieure à celle que représente leur armée. On s'en rendra compte en 1990, lors de la Seconde Guerre du Golfe, dans Bouclier du Désert, en réalité, tous les aéroports, hangars, dépôts saoudiens étaient structurés pour une armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes, qui n'était pas du tout la taille de l'armée saoudienne. Donc, le contrat saoudien n'est qu'une apparence qui, en fait, derrière, permet la présence, le jour venu, d'une force armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes dans la péninsule arabique. D'où le succès de la stratégie saoudienne, qui est d'avoir fait croire que le contrat avec les États-Unis était un succès diplomatique arabe, alors qu'en fait, c'était la mise en place des conditions d'une présence militaire américaine dans le Golfe le jour venu où on en aurait besoin. Alors, en Israël, cet accord est évidemment contesté, condamné avec véhémence du côté arabe. Les alliés arabes des États-Unis marquent leur désenchantement et il n'y a pas de prise de distance entre les États-Unis et la politique israélienne. En Israël même, l'opposition travailliste critique l'accord qui, selon elle, est loin de renforcer la sécurité d'Israël et faisant de l'Union soviétique l'ennemi d'Israël va provoquer une intervention soviétique plus importante. C'est ce que Rabin dit à la Knesset qui fait qu'Israël se retrouvait impliqué en cas de trouble dans la péninsule arabique. La droite nationaliste rejette aussi l'accord sur le thème qu'elle limite la liberté de manœuvre israélienne. Pour recommencer l'équivalent du bombardement des Irak, il faudrait maintenant avoir l'accord des États-Unis. En revanche, l'opinion publique israélienne est sensible au renforcement des liens avec le protecteur américain. Alors, inquiet du risque de dégradation de la situation au Liban, avec des affrontements entre l'armée du Liban Sud et les forces communes palestino-progressistes, la diplomatie américaine a renvoyé Philippe Habib faire une tournée dans la région au début du mois de décembre. Il propose un plan de retrait graduel des forces palestiniennes du Liban Sud contre des concessions équivalentes de la part des Israéliens. Mais en Israël, Sharon, lui, continue de plaider pour une intervention militaire israélienne au Liban qui ne conduirait pas à une confrontation avec les Syriens. Il explique que ce serait une action forte et rapide qui causerait de telles pertes aux 15 000 terroristes armés qu'ils cesseraient d'être un facteur militaire et politique au Liban. Et Sharon explique qu'elle devrait avoir lieu à proximité de l'élection présidentielle libanaise du mois d'août 1982, afin que le Parlement libanais puisse librement, entre guillemets, désigner le nouveau président qui conclurait ensuite une paix avec Israël. Alors, selon la nouvelle interprétation de Sharon, le cessez-le-feu conclu l'année précédente, enfin, le conclu dans l'affaire de la Beka, comprend toutes les activités palestiniennes. Et toute attaque contre un juif dans le monde constituerait une violation du cessez-le-feu. Il présente cela comme sa vision personnelle, qui n'a pas encore été approuvée par le gouvernement, mais Philippe Habib, qui écoute de façon effarée le discours de Sharon, lui répond qu'on est au XXe siècle, on ne peut pas envahir un pays, répandre la destruction et tuer des civils. La guerre avec la Syrie serait inévitable et mettrait le feu à toute la région. À cette date, donc fin 1981, l'état-major israélien a préparé trois schémas d'opération. Le premier irait jusqu'à Saïda, c'est-à-dire à la limite du Liban Sud. Le second comprendrait une confrontation avec les forces syriennes dans la Beka. Et la troisième, une guerre contre la Syrie dans l'ensemble de l'espace libanais, avec une éradication des terroristes à Beyrouth. Quand Habib revient à Washington, il prévient ses supérieurs du risque de guerre, mais leur réaction est faible. Washington se contente de transmettre à Arafat, par le biais de l'Arabie saoudite, des conseils pressants d'éviter tout incident avec les Israéliens. Alors, la stratégie de Sharon dans cette affaire est d'annoncer ses attentions aux Américains par ses allusions répétées. Comme ça, ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été informés le jour venu. Et en même temps, la mollesse des réactions américaines apparaît comme un acquiescement donné à son projet. Bon, je rappelle que Habib est officiellement à la retraite et donc il repart à la retraite dans l'attente de son prochain renvoi dans la région. François Mitterrand, lui, est toujours décidé à rétablir des relations de confiance avec Israël. Et le 7 et 8 décembre, Claude Cheysson est en visite officielle dans ce pays. Il s'agit de parler à l'un comme aux autres des mêmes projets dans les mêmes termes. C'est la doctrine officielle. Les conversations sont franches. Pour Cheysson, l'avenir du peuple palestinien est une condition essentielle d'un règlement qui doit être obtenu par la voie des négociations. L'OLP doit être l'un des partenaires de cette négociation qui doit aboutir à un État palestinien. C'est aux parties intéressées de régler leurs affaires. Il n'y a pas, il ne peut pas y avoir d'initiative européenne ou autre. La déclaration de Venise ne fait qu'énumérer des principes maintenant dépassés par les développements ultérieurs. Mais la réponse de son homologue, Shamir, et que la Jordanie est l'État palestinien, quand David assure le statut personnel des Arabes de Judée-Samarie, de facto, de fait, si vous voulez, Cheysson a enterré la déclaration de Venise qui cesse d'être un texte opératoire. Le 9 décembre, François Mitterrand, dans un entretien à la télévision, rappelle sa vision. Je cite, « Il ne m'appartient pas de définir exactement sur la carte quelles sont les limites géographiques de l'entité palestinienne. On discute, Jordanie, Cisjordanie, ce sont les négociateurs qui décideront. » Alors, cet abandon de la position française depuis Charles de Gaulle de retrait de tous les territoires occupés, voire même un appel au renversement de la monarchie hachémite, provoque la fureur des Palestiniens et l'indignation des Jordaniens, d'où une brouille qui durera quelques années entre la France et la Jordanie. Cheysson essaye de sauver la situation en expliquant qu'il s'agit de malentendus et que la position française, c'est Camp David plus l'OLP. avec qui il faut bien négocier. Et les Israéliens répondent qu'ils ne s'intéressent qu'aux déclarations du président de la République et non pas à celles de son ministre des Affaires étrangères. En Israël, Begin est hospitalisé depuis une quinzaine de jours à la suite d'une chute et a laissé au gouvernement la gestion des affaires courantes. Le 13 décembre 1981, l'attention mondiale se porte sur la Pologne, où l'on vient de proclamer l'état de siège et l'interdiction du mouvement Solidarité. Le lendemain, Begin convoque ses ministres et leur propose un projet de loi étendant la législation israélienne sur le Golan, c'est-à-dire l'annexant à Israël. Il passe immédiatement en procédure d'urgence à la Knesset et la loi est votée par 63 voix contre 21, la plupart des travaillistes s'abstenant. Peres et Rabin se trouvent en voyage à l'étranger, ce qui leur facilite les choses. Quant à Shamir, il commente « On ne peut pas annexer quelque chose qui vous appartient. » Alors la réprobation mondiale est immédiate. Mitterrand, qui tient à sa visite en Israël, est toujours retardé par la succession des événements dans la région, limite les réactions françaises. C'est la réplique américaine qui est la plus ferme. Weinberger exige que l'on sanctionne Israël, alors que Haig plaide pour la retenue. Reagan décide un compromis entre ses deux secrétaires. Les États-Unis votent la résolution 497 du Conseil de sécurité, le 17 décembre 1981. Je cite « Le Conseil de sécurité réaffirmant que l'acquisition de territoires par la force est inadmissible, conformément à la Charte des Nations Unies, aux principes du droit international et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, décide que la décision prise par Israël d'imposer ses lois, sa juridiction et son administration dans les hauteurs du Golan syrien occupé est nulle et non avenue et sans effet juridique sur le plan international, exige qu'Israël, puissance occupante, rapporte sans délai sa décision, déclare que toutes les dispositions de la Convention de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des personnes civiles en temps de guerre continuent de s'appliquer au territoire syrien occupé par Israël depuis juin 1967, prie le secrétaire général de faire un rapport au Conseil de sécurité sur l'application de la présente résolution dans un délai de 2 semaines et décide qu'au cas où Israël ne s'y conformerait pas, le Conseil de sécurité se réunirait d'urgence au plus tard le 5 janvier 1982 pour envisager de prendre les mesures appropriées conformément à la Charte des Nations Unies. Bien évidemment, on ne fera rien, comme dirait Claude Cheysson. L'application du mémorandum de coopération stratégique est suspendu, ainsi que les accords commerciaux, des accords commerciaux entre Israël et les États-Unis. Furieux, Begin convoque l'ambassadeur américain Samuel Lewis, un grand ami d'Israël, et déverse sa bile. Il lui déclare des choses du genre « Les États-Unis qui ont tué des milliers de civils lors de la Seconde Guerre mondiale et durant la guerre du Vietnam n'ont pas à donner des leçons à Israël, qui n'est pas un État vassal ou une république bananière. » Et immédiatement, la déclaration de Begin est rendue publique. Reagan y voit la volonté de mobiliser la communauté juive américaine contre son administration, mais il est confiant dans sa popularité. De fait, la position d'administration, les États-Unis ont un engagement historique envers Israël dont il demeure le plus ferme soutien, et cet engagement ne saurait dispenser Israël du respect de la loi internationale, ni permettre au gouvernement israélien d'agir à l'encontre des intérêts des États-Unis. Donc cette attitude est approuvée par l'opinion publique. Il n'y a pas de protestation majeure au Congrès ou dans la communauté juive américaine. Alors la vivacité de la réaction américaine s'explique aussi par la crainte que Begin et Sharon ne profitent de la situation pour envahir le Liban Sud. Le 20 décembre, juste après l'Algarade avec Samuel Lewis, Sharon présente au gouvernement israélien pour la première fois son plan d'action au Liban. L'armée israélienne irait jusqu'au faubourg de Beyrouth, puis coordonnerait ses opérations avec les forces libanaises, éventuellement en débarquant des troupes à Jounieh. La majorité du gouvernement est hostile, mais Begin est maintenant convaincu. Le 28 décembre, David Kimche, ou Kimre, un ancien des services secrets israéliens, devenu secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, est envoyé secrètement en conciliation à Washington. Il explique à ses interlocuteurs américains que le plan d'invasion n'est qu'un scénario possible et non pas nécessairement un plan opérationnel. Israël n'agira que pour répondre à une agression. Eng lui rappelle son amitié pour Israël. C'est grâce à lui que les tentatives de sanctionner Israël proposées par Weinberger ont été limitées. Et le secrétaire d'État laisse entendre qu'il appuierait une opération limitée au Liban dans un rayon de 40 km au nord de la frontière. Au Liban, les violences ont repris entre Hamal et les pro-irakiens. Alors, une date malheureuse pour l'histoire du Proche-Orient, c'est le 15 décembre 1981, parce que c'est le premier attentat suicide à appliquer dans la région. Donc, un attentat suicide revendiqué par le groupe du martyr Hussein détruit l'ambassade d'Irak à Beyrouth, faisant une trentaine de morts et 110 blessés. C'est, semble-t-il, la première fois où est utilisée la tactique ou la méthode de l'attentat suicide dans l'histoire contemporaine du Proche-Orient. Du coup, les diplomates irakiens se réfugient en secteur chrétien, ce qui renforce la liaison entre les forces libanaises et l'Irak de Saddam Hussein. L'Irak devient à ce moment-là l'un des principaux fournisseurs d'armes des milices chrétiennes. Alors, cette terrible violence n'est que l'un des épisodes d'une période particulièrement sombre au Liban, ponctuée par des attentats visant la population civile des deux camps. Durant tout le mois de janvier 82, Hamal continue de combattre les forces du mouvement national. Pour les observateurs, il est évident que les chiites sont en train de devenir les alliés privilégiés de la Syrie au Liban, plutôt que les palestino-progressistes, toujours plus ou moins rétifs à la domination syrienne. Dans une conférence prévue au mois de décembre, mais annulée au dernier moment en raison des événements, le général Sharon a exposé sa doctrine de sécurité. Ce texte, publié ensuite dans la presse israélienne, fait grand bruit. Selon Sharon, la puissance de dissuasion israélienne fait que les États arabes de la confrontation n'ont pas les moyens d'engager une guerre contre Israël, d'où leur utilisation de l'ONP qui reste une menace latente pour l'existence même d'Israël et un obstacle essentiel à la solution du problème palestinien. La menace soviétique pourrait constituer le danger majeur des années 1980, d'où la nécessité de la coopération stratégique avec les États-Unis et avec les autres États pro-occidentaux de la région. Les pays arabes qui sont au-delà des États de la confrontation, c'est-à-dire les États voisins d'Israël, sont en train de renforcer considérablement leur potentiel militaire et pourraient envoyer très rapidement leurs forces dans les régions de la confrontation et menacer les voies d'approvisionnement d'Israël. Au-delà de ce second cercle, donc premier cercle les pays de la confrontation, le second cercle les pays arabes, au-delà de la confrontation, il y a un troisième cercle comprenant la Turquie, l'Iran, le Pakistan, les régions du Golfe, l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale. Il faut qu'Israël dispose d'une supériorité militaire dissuasive sur la totalité des forces arabes et si la dissuasion échoue, les moyens de détruire l'ennemi en le frappant chez lui sont nécessaires. D'où la nécessité pour Israël d'interdire toute prolifération nucléaire dans la région allant de l'Afrique jusqu'à l'Iran. L'hypothèse d'action préventive dans une logique défensive est clairement exprimée dans le texte du général Sharon. Ce texte au contenu contradictoire puisque certains pays sont à la fois désignés comme alliés et comme ennemis, provoque des commentaires inquiets, y compris dans les journaux israéliens. La ligne de défense israélienne n'est plus sur ses frontières et sur les lignes de cessez-le-feu, mais bien au-delà, afin de contrer les complots soviétiques, entre guillemets. Certains commentateurs évoquent même un empire israélien allant de l'Afrique du Nord aux frontières de la Chine, puisque c'est l'espace stratégique désigné par le texte de Sharon. En fait, ça n'a rien de nouveau, les Israéliens étant impliqués dans différentes guerres civiles du Soudan à l'Irak depuis la fin des années 1950, à l'époque de Ben-Gourion et de sa stratégie dite périphérique. La pensée de Sharon irait plutôt dans le sens d'une codirection avec les États-Unis des affaires de la région. Et en ce sens, le texte de Sharon est plutôt un avertissement aux Américains de ne pas continuer de livrer des armements aux pays arabes. Donc, à Washington, l'opposition est très très forte maintenant, elle est notoire, elle est publique, entre Weinberger, qui est hostile à la stratégie israélienne, et Alexander Haig, qui se proclame l'ami inébranlable d'Israël. Le véritable sujet de préoccupation de Sharon, c'est le Liban. Le 12 et 13 janvier 1982, il s'y rend secrètement en hélicoptère avec une délégation militaire pour discuter avec Bachir Gemayel. Il lui annonce son intention de lancer une opération de grande envergure à la frontière nord d'Israël. Il faut déterminer la répartition des rôles. Il fait comprendre que l'armée israélienne ira jusqu'au faubourg de Beyrouth et que c'est aux forces libanaises de s'emparer de Beyrouth-Ouest. Alors, selon le compte-rendu des forces libanaises, que je vais vous citer, voilà ce qu'il est marqué d'après ce qu'aurait dit Sharon. Je cite « Israël pourrait être obligé d'intervenir militairement au Liban, peut-être même avant l'été 1982, à cause de l'activisme palestinien qui viole le cessez-le-feu de juillet. Si Tsahal intervient, il frappera tellement fort que les terroristes ne pourront pas reprendre leurs activités comme ce fut le cas après l'opération Litanie de 1978, et il ne sera pas question de se limiter à des actions de recherche et de destruction comme nous l'avons fait à l'époque. Si les terroristes sont définitivement battus, vous pourriez profiter de l'occasion pour investir Beyrouth-Ouest et préparer le terrain pour des élections libres. Une des conséquences pourrait être un retrait syrien par des pressions politiques, ce qui aurait les faveurs de Washington. Je ne suis pas venu finaliser un plan d'action conjoint avec vous, c'est encore trop tôt, mais il est très important pour moi de sortir d'ici en sachant ce que vous voulez exactement, ce que vous êtes capable de faire, si et quand Tsahal sera obligé d'intervenir au Liban et d'arriver aux alentours de Beyrouth. Donc là, nous sommes le 12-13 janvier 1982. Bachir Gemayel promet de préparer le plus rapidement possible un plan politico-militaire. En fait, lui et ses conseillers considèrent comme acquise son élection à la présidence de la République. Il faudra donc gouverner avec les musulmans. Les discussions avec les Israéliens continuent durant tout le mois de janvier avec une multiplication des points d'interrogation. Quelle est la position réelle des États-Unis? Jusqu'où exactement l'armée israélienne ira? Il n'est pas question pour les Israéliens d'aller plus loin que Beyrouth et de pénétrer dans la Bekaa. À la mi-février, Bachir Gemayel se rend à son tour en Israël. Begin lui confirme qu'il le veut comme président de la République du Liban, après des élections libres, évidemment. Il n'a pas pris d'engagement, en ce qui concerne Beyrouth, mais évoque son intention de nettoyer le Liban de toute présence palestinienne. Parallèlement, Bachir a discuté avec l'ambassadeur américain à Beyrouth, Robert Dillon, qui lui marque l'hostilité des États-Unis au projet israélien. Néanmoins, si ce dernier projet se concrétise, il faudrait absolument, dit l'ambassadeur américain, que Bachir Gemayel reste dans les limites de la légalité libanaise. Donc, dans ces premières semaines de 1982, le jeune leader chrétien a vu se préciser deux options claires en cas d'invasion israélienne. Soit les forces libanaises s'impliquent totalement du côté israélien, et cela risque de déboucher sur la constitution d'un État chrétien ne couvrant pas la totalité du territoire libanais et étant sous tutelle israélienne. Soit les forces libanaises collaborent avec les Israéliens tout en maintenant une certaine distance et Bachir Gemayel deviendrait le président de tous les Libanais. Et c'est ce que disent les conseillers de Bachir et c'est ce que lui répète aussi régulièrement l'ambassadeur des États-Unis. Dans toutes ces discussions, personne ne semble vouloir expliciter ce que veut dire du côté israélien la suppression des milliers de terroristes armés et du côté force libanaise nettoyer le pays de la présence palestinienne. Expressions qui reviennent régulièrement dans les discussions, mais dont le contenu matériel n'est pas défini. On reste, comme dans toujours ce genre de choses, dans les expressions soft. Le camp est conditionné par le « si », c'est-à-dire l'incident qui doit servir de justification à l'invasion. Haig se rend dans la région à partir du 12 janvier pour assurer l'étape définitive du retrait israélien du Sinaï. Il cherche à obtenir au moins une déclaration de principe sur l'autonomie palestinienne, mais la politique de Moubarak est de respecter scrupuleusement les engagements pris, mais aussi de préparer le retour de l'Égypte dans le monde arabe une fois le retrait israélien terminé. Autrement dit, la stratégie de Moubarak est de ne pas s'impliquer dans le dossier palestinien. Il est donc hors de question qu'il cède sur le dossier palestinien. Haig le comprend dans les discussions, mais dit en public l'inverse. En Israël, on demande à Haig de faire pression sur l'Égypte sur le dossier de l'autonomie, mais la discussion principale porte sur le Liban. Begin donne l'assurance qu'Israël n'attaquera pas, enfin n'attaquera que s'il y a une provocation évidente. Les diplomates américains essayent d'avoir des contacts avec les notables palestiniens des territoires, mais ces derniers rejettent toute perspective d'autonomie telle qu'elle est prévue dans les accords de Camp David. De retour aux États-Unis, le secrétaire d'État désigne un nouveau négociateur américain qui s'appelle Fairbanks, un juriste sans aucune expertise de la région et même de la diplomatie, comme négociateur sur l'autonomie. Il a maintenant une conviction, Haig, c'est qu'il n'y aura pas d'attaque israélienne sur le Liban avant le 26 avril, c'est-à-dire date du retrait israélien du Sinaï. Au Conseil de sécurité, le 20 janvier 1982, les États-Unis opposent leur veto à un projet de résolution assimilant l'annexion du Golan à une agression et donc conduisant nécessairement à des sanctions contre Israël. Pour le représentant américain, une telle résolution n'aurait fait qu'aggraver la situation. Dans les derniers jours de janvier, la tension monte. Yasser Arafat prédit une invasion du Liban Sud avec la complicité des États-Unis. Israël multiplie les mises en garde contre les violations du cessez-le-feu. Selon les Palestiniens, il y aurait maintenant 5000 fédayines avec des blindés et des canons à longue portée au sud du Litani. Pour les ambassades occidentales à Beyrouth, y compris l'américaine, une telle concentration de forces n'est pas dans les moyens de l'OLP. Le Liban officiel demande un renforcement de la FINUL afin de mieux contrôler la zone frontalière, mais personne n'est prêt à envoyer des soldats supplémentaires au Liban Sud. Haig se rend de nouveau dans la région à la fin janvier pour veiller aux dernières étapes de l'application des accords. Moubarak est net et définitif. Il n'y aura pas de signature égyptienne sur un accord qui n'aura pas été approuvé préalablement par les Palestiniens. L'autodétermination des Palestiniens est la meilleure garantie de la sécurité de l'État d'Israël, dit le président égyptien. Et après tout, ce sont les Israéliens les premiers qui ont marqué qu'il n'y avait pas de lien entre la rétrocession du Sinaï et l'application des accords d'autonomie. Le 29 janvier, un commando palestinien passé clandestinement par la Jordanie réussit une incursion dans la vallée de Jourdain. Trois d'entre eux sont capturés. Sharon et Begin proposent au gouvernement un bombardement aérien des positions palestiniennes au Liban. La majorité refuse ce projet qui aurait nécessairement conduit à des affrontements, puis à la fameuse invasion. Les Israéliens se contentent de faire des murs du son au-dessus des localités du Liban Sud et on informe Washington que l'on n'acceptera plus une nouvelle violation du cessez-le-feu. Pour atténuer l'opposition, Sharon présente maintenant une nouvelle version de son grand dessein qui comprend deux options. La première, une progression de 40 à 45 km à l'intérieur du Liban. La seconde, une avancée jusqu'à Beyrouth. Il feint de croire que ces deux opérations n'impliquent pas un heurt frontal avec l'armée syrienne. La majorité du gouvernement est prête à accepter la première option, tandis que pendant ce temps-là, les militaires israéliens discutent de la seconde avec les forces libanaises. Il s'ensuit que l'ambassadeur américain à Beyrouth, Robert Dillon, informé par Bachir Gemayel régulièrement des contacts avec les Israéliens, informe Washington du contenu de la seconde option, tandis que Samuel Lewis à Jérusalem ne lui communique que la première. D'où encore jusqu'à aujourd'hui, dans les mémoires réciproques de Dillon et Lewis, des quasi-injures entre les deux ambassadeurs, Dillon disant clairement que Lewis ne faisait pas son boulot parce que lui, à Beyrouth, il en savait plus sur la politique israélienne que l'ambassadeur des États-Unis en Israël. À la fin février, enfin au cours de février, la presse internationale évoque maintenant régulièrement la prochaine invasion du Liban par l'armée israélienne. Moi-même, traînant mes guêtres dans la région comme jeune chercheur à l'époque, il était de notoriété, enfin, c'est dans les discussions, les gens disaient l'invasion israélienne se produira dans les semaines à venir. On n'avait pas la date, mais on avait la quasi-certitude de l'invasion. Donc je vous laisse là en plein suspense, pour une pause de 5 minutes.